Il vient d'être 18h au studio Kalangou. Merci d'écouter le journal en français dans une présentation de Rafika Taher. À présent, les titres. Plusieurs régions du Niger victimes d'inondations suite aux fortes précipitations enregistrées la semaine passée et cette semaine. Le point dans un instant. Le Conseil supérieur de la communication a ouvert ce matin à Niamey sa session mensuelle. Une session qui va statuer entre autres sur le fonds d'aide à la presse 2018. Les détails dans ce journal. En partie magazine, nous découvrirons dans la rubrique de chaque lundi la contrefaçon et les sanctions prévues dans le code pénal nigérien. C'est avec la magistrate Goje Maimouna Gazibou. Quatre personnes mortes, une femme et ses trois enfants et plus de 100 concessions effondrées. C'est le bilan des fortes précipitations enregistrées la semaine dernière au village de Babanjibji et Makwasa Est de la commune de Dungu, département de Kanché. Le maire de la commune, Yahi Yaoulé, dresse le bilan des dégâts au micro de Sabou Serki Saleh.
Une grande pluie s'est abattue de la nuit du 23 au 24. Et cette pluie, malheureusement, a causé la mort de quatre personnes, dont une femme et ses trois enfants, qui sont victimes d'effondrement de leur chambre. Il y a 50 ménages qui sont maintenant victimes d'effondrement de leur habitation. Ça, c'est le premier village, donc celui qu'on appelait Bambajouji. En dehors de ça, un autre village qui est à côté, appelé Makwasa, qui en dénombre plus de 50 ménages victimes d'effondrement des chambres. Ça, c'est en dehors des murs et autres dégâts collatéraux.
Quelles sont les dispositions prises pour éviter d'autres dégâts?
Les dispositions en milieu rural, on n'a pas assez d'infrastructures. Mais la sommation a été donnée à la population de prendre garde, de ne pas habiter des maisons en banco, d'avoir plus confiance dans des maisons en paille dans ce genre de circonstances.
Deux morts, une trentaine de maisons effondrées et des animaux emportés, c'est le bilan des dégâts causés par de fortes précipitations enregistrées entre vendredi et samedi dans plusieurs localités du département de Wallam, région de Tillabéri. Les détails avec Marcadou Soumeila, préfet du département de Wallam, au micro de Ilyas Ogumande.
Dans la ville de Wallam, il a été enregistré 120 mm. Dans la zone de Tondikiwundi, il y a un autre village qui a enregistré jusqu'à 140 mm. Il y a des espaces où beaucoup de dégâts ont été enregistrés. Pour le chef-lieu de la commune, il y a à peu près 30 maisons qui se sont effondrées, totalisant 158 personnes sinistrées. Au niveau de la maison d'arrêt, le local de la cuisine s'est également effondré. Dans la commune de Tondikiwundi, 42 ménages sont affectés, soit 269 sinistrés. Dans la commune de Simiri, 26 ménages affectés, soit 177 personnes sinistrées. À Dingazi, l'éclat du tonnerre a occasionné la mort de deux personnes et trois autres blessés, avec l'effondrement de 22 maisons, 5 petits ruminants emportés par les eaux.
Plusieurs localités du Kawar dans le département de Bilma, région d'Agadez, ont été inondées suite à des fortes précipitations enregistrées ces derniers jours. Trois communes ont été touchées. Le préfet de Bilma, Boudou Fatoumi, dresse un bilan provisoire des dégâts au micro de Moussa Maman.
Après Bilma, c'était le tour de la commune rurale du Djado. Djado, c'est suite à l'écoulement du Kori Moyogua, il y a eu 41 maisons qui sont effondrées, 14 boutiques, donc 6 chèvres. La commune rurale de Dirkou, ce n'est pas la ville de Dirkou qui a été touchée, mais un village qui est situé à 45 km au nord de Dirkou qui s'appelle Anei. Donc il y a eu 3 blessés et un grave qui a été admis au district sanitaire de Dirkou. Il y a 29 maisons qui se sont effondrées, 29 chambres effondrées, 5 magasin, une case qui a été endommagée et une chèvre qui est morte.
97 ménages sinistrés, totalisant 565 personnes, c'est le bilan des inondations survenues ce week-end à Arlit. Selon les services des sapeurs-pompiers, c'est la conséquence de fortes précipitations enregistrées par la cité minière. Hassan Hamani, vice-maire d'Arlit, au micro de Moutari Abdoulaye.
Au total, entre la ville d'Arlit et celle d'Akoukan, nous avons enregistré 97 ménages dont les maisons se sont effondrées, totalisant ainsi 569 personnes sinistrées. Si l'on totalise les maisons et les murs effondrés, nous avons au total 147 concessions touchées. Ce qu'il y a à préciser ici, toutes ces données proviennent du relevé des sapeurs-pompiers. Aussi, je voudrais attirer l'attention de la population à savoir que partout, pour de telles situations, c'est le relevé des sapeurs-pompiers qui est pris en compte.
Plusieurs maisons et boutiques effondrées après une pluie de 176 mm enregistrée à Goula, une commune rurale du département de Dakoro, région de Maradi. Explication avec le maire Rabiu Amani, joint au téléphone par Adamu Umaru.
175 mm de pluie ont été enregistrés, engendrant ainsi l'effondrement de 44 maisons. L'ancien puits du village de Goula a également été englouti par les eaux. Les difficultés qui peuvent survenir, c'est le paludisme, parce que les différents puits, dont celui situé à l'est de la ville et l'autre qui se trouve à l'ouest, sont tous submergés. Ou maintenant, c'est une mare. Toutes les habitations aux alentours de ces puits sont totalement effondrées. Notre appel, c'est le souhait d'un appui et surtout en ce moment où la population n'a pas encore récolté le fruit de leur labeur. Il y a également des personnes qui ont perdu leur habitation. Nous demandons l'aide de nos partenaires et des ONG pour un appui alimentaire. La mairie a pris toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser la population en invitant les gens à quitter les maisons situées dans les zones à risque.
Le centre régional de transfusion sanguine d'Agadez a servi de cadre samedi pour la célébration de la journée mondiale de l'aide humanitaire du 19 août dernier. Cette commémoration est placée sous le thème « Femmes humanitaires ». Ayou Halid Ekiri, première femme humanitaire de la région d'Agadez, explique sa motivation pour ce métier. Elle témoigne au micro de Moussa Maman.
Ma passion pour les activités humanitaires a commencé en 2010, pendant l'urgence au niveau du PAM. Il y avait une urgence durant 2 ans. J'ai su être en contact avec les gens. J'étais logisticienne et j'avais sous ma supervision plus de 100 personnes. Après cela, j'avais des missions de terrain que j'effectuais un peu partout, Dosso, Tillabéri, et j'étais pas mal en contact avec des gens vulnérables qui me parlaient à cœur ouvert, qui se confiaient à moi. Et c'est tous ces mots qui m'ont poussé à me dire, tiens, quelque part, il y a quelqu'un qui a besoin de moi. Quelque part, il y a quelqu'un qui a besoin d'assistance. Je me sens vraiment serviable pour l'humanité entière, particulièrement les femmes et les enfants. Le premier défi, c'est au sein même de l'organisation. Être une femme, occuper une place aussi importante, gérer aussi des grandes personnes plus âgées que toi, c'était pas du tout facile. J'ai le privilège de parler tamashek. Donc, la communication, au début, elles étaient réticentes. Dès que j'ai commencé à parler tamashek, je les ai écoutées. Alors, c'était le flux qui passait.
Deux groupes de travail, dont l'un sur l'attribution du fonds d'aide à la presse 2018 et l'autre sur un guide sur la protection de l'enfance et l'adolescence, seront mis en place durant cette session mensuelle du Conseil supérieur de la communication ouverte ce matin à Niamey. Écoutons le premier rapporteur du CSC, Seyni Ayouba Kaka, qui explique aussi d'autres points importants. Il est au micro de Nafisa Adamo.
Au cours de cette session, il sera mis en place 2 groupes de travail, un sur la répartition du fonds d'aide à la presse 2018 et un deuxième sur l'élaboration d'un guide du CSC sur la protection de l'enfance et de l'adolescence dans les médias en partenariat avec l'UNICEF. L'autre point aussi important, c'est sur le projet de délibération définissant les modalités d'attribution des numéros logiques aux services de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique. En fait, dans le cadre de la TNT, déjà toutes les télévisions nationales sont sur le multiplex. Il revient au CSC d'attribuer à chaque télévision un numéro. Quand le CSC va adopter cette délibération, il va envoyer à l'Agence nigérienne de diffusion pour application.
Le monde de la presse nigérienne est en deuil. Omar Diallo, journaliste à la retraite de l'ORTN, l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger, est décédé samedi suite d'une maladie, selon ses proches. L'enterrement a eu lieu hier au cimetière de Yantala, à Niamey. Le directeur de la radio associative alternative d'Agadez, Maman Kanta, aussi n'est plus. Il est décédé hier dimanche des suites d'une maladie à l'hôpital d'Agadez. L'inhumation a eu lieu ce matin au cimetière d'Agadez. Que leurs âmes reposent en paix. Amen. 31,64%, c'est le taux de réussite au brevet d'études du premier cycle de l'année scolaire 2018-2019, officiellement proclamé par le ministre des Enseignements secondaires le jeudi 22 août dernier. Un taux qui a baissé d'environ 8 points par rapport à l'année dernière, nous explique le directeur des examens et concours et de l'orientation, Abdelrazak Adam, au micro de Moussa Hassan.
Cette année, nous sommes arrivés à un taux de réussite de 31,64%. Ce taux est inférieur à celui de l'année dernière. On a perdu à peu près 7 à 8 points, ce qui n'est pas très reluisant. C'est vrai, les gens disent que les élèves, il y a une baisse de niveau à leur niveau. Les enseignants aussi, il y a une baisse de niveau à leur niveau. Tout ça là, c'est des choses qu'on dit comme ça, mais qui n'ont pas été démontrées vraiment par une étude. Les taux de réussite de ces élèves là, c'est quelque chose qu'ils ont traîné depuis la base. Par exemple, les élèves du CM2 qui vont en 6e. Un tiers seulement arrive à passer en classe de 5e. Un tiers redouble et un tiers se trouve exclu. Donc tout ça là, c'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir.
À partir du 20 août 2019, le studio Kalangou vous propose à travers ses 38 radios partenaires
un nouveau programme produit par des femmes et pour les femmes.
Retrouvez chaque mardi le magazine Bien-être à la fin des bulletins d'information en Tamashek,
Fulfulde,
Hausa,
Zerma et Français.
Puis, toujours le mardi,
à partir de 18h15, un autre rendez-vous appelé Espace Femmes de 45 minutes en ton en Zerma,
en Hausa ou en Français.
Une plage qui répond à vos questions de société, d'actualité et de santé. La contrefaçon est un délit prévu et puni par l'article 372 du Code pénal nigérien. Elle consiste à reproduire, à diffuser ou à partager à titre gratuit ou moyennant une contribution financière des contenus audiovisuels, mais également à dupliquer et à distribuer des œuvres écrites sans l'autorisation des ayants droit. La magistrate Goje Maimouna souligne que ceux qui osent importer les œuvres peuvent aussi être l'objet de poursuites, une fois que l'auteur saisit les juridictions nigériennes. Propos recueillis par Balkis Hamidou.
Toute personne qui ose reproduire, diffuser ou partager des contenus audiovisuels ou des œuvres écrites sans l'autorisation des ayants droit viole les droits d'auteur et cela est qualifié de délit de contrefaçon. Cette personne sera punie d'un emprisonnement de 15 jours à un mois selon la magistrate Goje Maimouna Gazibo.
La contrefaçon est une infraction prévue par la section 4, article 372 du Code pénal qui définit la contrefaçon au sens de l'article 372, toute édition d'écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs. Si on doit l'expliquer de manière simple, la contrefaçon consiste par exemple un écrivain s'inspirer des écrits d'un autre écrivain pour éditer un livre. La contrefaçon consiste par exemple pour un peintre à reproduire de manière identique le tableau d'un autre peintre et à le signer. La contrefaçon consiste pour un musicien à aller prendre les paroles d'une chanson de quelqu'un. Et c'est ce que souvent nous voyons, par exemple, les artistes se plaignent énormément. Ils produisent une musique, quelqu'un d'autre reproduit des CD, les vend beaucoup moins cher. C'est une infraction. Tant que l'artiste lui-même ne vous autorise pas à imprimer, vous n'avez pas le droit. La contrefaçon consiste, par exemple, de prendre les drapeaux du Niger, vous les imprimez vous-même sans autorisation, alors qu'aucune loi ne vous l'autorise, et vous vous mettez à vendre les drapeaux de la République du Niger.
Quelles sont les sanctions réservées aux auteurs de contrefaçon?
Lorsque le tribunal vous reconnaît coupable du délit de contrefaçon, vous pouvez être condamné à une peine d'emprisonnement de 15 jours à un mois. Et ce qui est important, lorsque vous importez des œuvres contrefaites au Niger, c'est-à-dire que c'est l'œuvre de quelqu'un d'autre dans un autre pays, au Togo, en Côte d'Ivoire, en Cameroun, et que l'auteur découvre que vous importez ces créations au Niger pour les vendre, il peut saisir les juridictions du Niger et vous allez être condamné pour contrefaçon. Donc, quel que soit l'endroit où vous vous déplacez pour exposer exploiter l'œuvre de quelqu'un, vous pouvez être poursuivi et condamné.
Qu'en est-il de ceux qui utilisent les citations des auteurs sans pour autant les citer?
En littérature, c'est du plagiat. Lorsque quelqu'un fait sa citation, ce n'est pas une infraction pénale, on va dire, mais par exemple, pour un enseignant-chercheur, c'est des sanctions disciplinaires qui vont être prises. En principe, lorsque quelqu'un est auteur d'une citation ou d'une phrase, si vous voulez vous référer à sa citation ou sa phrase, vous ouvrez les guillemets, c'est ce qu'on nous a appris sur les bancs de l'école.
Ici prend fin ce journal. Merci et au revoir.